n'était pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac.
Ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Un mercredi sur deux à 19h sur Radio G. C'est l'heure de parler cinéma avec caméra subjective. Cette émission est arrivée sur les ondes en septembre, ce qui vous a laissé le temps de connaître et de connaître son équipe. À mes côtés dans le studio, il y a Véronique. Bonsoir Véronique.
Bonsoir Margot.
Toujours pas, mais bonsoir Margot.
Bonsoir Véronique, Ali, bonsoir à tous.
On ne fait qu'une et même, on est une équipe, on est soudés. Alors, c'est notre avant-dernière émission de la saison, déjà. Et comme toujours, nous aurons besoin de chaque minute, de chaque seconde pour vous parler de tous les sujets que nous avons choisis ce soir. Margot a sélectionné plusieurs actualités qui, entre festival, nuit du cours, études du CNC et réédition de films, vous permettront de ne rien rater d'important dans les semaines à venir. Et Margot, tu as également choisi la dernière sortie documentaire chez KMBO.
Oui, j'ai prévu de vous parler d'un magnifique documentaire qui s'appelle Birds of America, qui est sorti la semaine dernière, qu'on peut voir sur grand écran aux 400 coups, et que je vous conseille d'aller de courir voir à tire-d'aile.
À tire-d'aile, c'est beau. Avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir des invités. Ils sont membres de l'association Cour et 49. Alors bonsoir Johan Neveu.
Bonsoir.
Président de l'association, et bonsoir Benoît Rolando.
Bonsoir.
Membre de l'association. Alors, Cour et 49 a été créée en 2014. Elle rassemble des passionnés de cinéma avec l'envie de rendre possible la réalisation de nouveaux films. Et on peut dire que vous êtes une association de production indépendante. En créant, vous pouvez compléter, hein, mais en créant l'association, à quel besoin vous aviez envie de répondre ?
Bah, ça a répondu à un besoin de... C'est ça, de faire des films. Parce que le problème quand on veut faire des films, c'est qu'il faut être plusieurs, il faut être nombreux. C'est bien si on a une caméra, mais il faut quelqu'un pour tenir la perche, il faut quelqu'un pour jouer devant, il faut quelqu'un pour le maquiller, etc. Bref, on avait ce souci-là, donc il fallait être une équipe. Et donc, bah, quand ça a commencé, en fait, c'est Vincent, le fondateur, qui a lancé vraiment des bouteilles à la mer. Il a envoyé des mails en disant bah, qui c'est qui veut faire partie de cette équipe-là, de cette aventure-là. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, en fait. Et on a appris chacun les uns les autres. On a partagé nos compétences et comme ça, en fait, on est une équipe de réalisateurs. Hein, on est quasiment tous, on s'est tous quasiment essayé à la réalisation qui, du coup, s'entraidons sur les tournages, etc.
Et c'est vrai que notre particularité, on va dire, c'est qu'on n'est pas une bande de copains qui se connaissons depuis l'école ou depuis le collège, où on n'est pas des frères et sœurs, mais comme dit Johan, on s'est rencontrés par notre passion et s'est réunis par notre passion. C'est ce qui fait, je pense, notre particularité dans le tissu en jeu.
Absolument, tu as tout à fait raison.
Mais du coup, aujourd'hui, sur quelles étapes de la création d'un film vous êtes opérationnel? Sur toutes les étapes ou vous avez des spécialités sur lesquelles vous êtes plus investi?
C'est une bonne question. On est plus investi, je dirais qu'il y a plus de travail sur ce qui est écriture, scénario, etc. aussi parce que c'est le plus simple à lancer en tant qu'atelier, en tant qu'exercice, etc. Mais on essaye justement aussi de s'entraîner sur tout ce qui est cadrage, prise de son, lumière, toutes ces choses-là. On essaye de faire des ateliers pour justement que tout le monde gagne en compétences. Après, vu qu'on est, on reste une famille bigarrée, on a des gens qui sont justement vont avoir plus de compétences en caméra, d'autres qui vont être plus orientés lumière, certains pas beaucoup en son, hein, malheureusement, mais bon, ça c'est le jeu de partout. D'autres qui vont être plus orientés scénario, d'autres qui vont plus être orientés post-prod. Et donc le mélange comme ça fait qu'on a quelque chose d'assez homogène au final, je pense. Ouais.
Puis on essaye de tout tester quand même.
Oui, ouais.
Mais c'est ça. Du coup, votre équipe, enfin, en tout cas les passionnés de cinéma qui arrivent dans l'assaut, est-ce qu'ils arrivent d'abord avec l'envie de réaliser ou parfois ils arrivent avec d'autres envies ?
Il y a majoritairement quand même, on va le dire, une envie de réaliser.
Ouais.
Et vient aussi l'envie de partager des choses et d'aider aussi sur des tournages. Il y a des gens, des fois, ils viennent juste parce qu'ils veulent participer à une aventure de tournage. Et bah, c'est bête, mais c'est vrai que des fois, bah, on a besoin de petites mains, de choses comme ça. Et donc, ils vont être là sur des tournages, à découvrir comment ça se passe, etc. Puis, ils vont avoir envie de tester des postes, par exemple, sur un tournage, ou alors vont avoir envie d'écrire. Et donc, bah, c'est comme ça qu'on va finalement grandir, chaque membre va grandir.
Oui, puis c'est vrai qu'on peut voir, on peut voir un film et puis se dire « Ah, j'aimerais bien moi aussi réaliser des films ». Et quand on a personne, enfin quand on connaît personne qui réalise des films, ben, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas qui rencontrer, justement. Et les gens qui viennent nous voir, parfois, c'est des gens comme ça qui disent « Bah, en fait, j'ai jamais réalisé de film, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de créer quelque chose ». Et ces gens-là peuvent rester une à deux années à nous regarder, à voir comment ça marche, à participer. Et au fur et à mesure, ils grandissent et on grandit tous ensemble. Et après, il y a des belles choses qui se font, et notamment des beaux courts-métrages.
Donc là, vous parlez des gens de quand ils arrivent. Comment ça se passe? Vous faites un casting des gens qui entrent dans l'assaut? Enfin, comment se passent ces rencontres? Et quels sont, est-ce qu'il y a des minimums requis? Alors, peut-être pas ceux qui vont donner un coup de main sur le tournage, mais... pour s'impliquer plus activement dans les projets.
On a souvent on fait une porte ouverte en quelque sorte, une réunion un peu spéciale pour présenter l'association au début d'année. Du coup, en fin septembre, début octobre, des choses comme ça, justement pour présenter un peu notre fonctionnement, parce que ça reste toujours. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui font du court métrage et chacune va avoir leur formation différente. Donc, on essaie de présenter pour que les gens soient pas surpris après sur la façon dont ça fonctionne. Et là aussi, du coup, ça va vraiment être une sorte de filtre à. On va pas refuser des gens, et après les gens vont voir si ils sentent qu'ils rentrent bien dans ce moule-là, ou si, malheureusement non, mais le plus souvent les gens aiment bien. Et on va avoir des gens qui vont avoir qui vont jamais avoir travaillé sur des films, et d'autres par exemple aussi, qui vont être parfois des professionnels dans un poste ou dans des choses comme ça, et qui vont justement... vouloir participer à des courts-métrages ou justement changer de poste, mais ils ne peuvent pas le faire de manière professionnelle, alors ils se disent tiens, je vais essayer dans l'association. Et donc de cette manière-là, nous on présente, chacun vient avec ce qu'il apporte, son envie, ses compétences, peu importe, et après, il n'y a pas de casting en tant que tel. Non.
Alors peut-être maintenant on va avancer aussi dans comment vous produisez vos projets. Et la première question qu'on se posait, c'était comment vous décidez des projets que vous accompagnez? J'imagine qu'il y a quelque chose de collégial, mais comment ça se passe?
En fait, ça se fait tout se fait naturellement. C'est-à-dire que c'est assez bizarre.
L'association
parce
la plus naturelle du tout Angers.
Oui, c'est
une démocratie.
On a essayé de créer des règles, des filtres. Ouais, c'est ça. On essaie de créer des règles, des filtres, mais en fait, ça se fait naturellement. C'est-à-dire que, comme tu disais, les gens qui rentrent, ceux qui ça plaisent pas, qui regardent, ils restent un mois, deux mois, puis ils s'en vont. Et pareil pour les films, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent pas capables d'écrire pour le moment, et ça viendra un peu plus tard. Et au final, des gens qui se sentent capables d'écrire des scénarios, il y en a pas tant que ça, des gros scénarios de 20-15 minutes pour un court-métrage. Enfin, chez nous, c'est gros.
C'est assez gros, petit. Ouais.
Et après de porter le projet, parce qu'il n'y a pas que le scénario, il y a aussi la pré-production, il faut essayer de trouver des lieux de tournage, il faut essayer de trouver des financements, etc. etc. Tout ça, c'est un peu compliqué, et en fait, au fur et à mesure, ça tamise un petit peu. Et donc, on se dit que les gens qui arrivent, les porteurs de projets qui arrivent à ce niveau-là, en fait, nous, on fait tout pour les aider. C'est-à-dire qu'on ne les bloque pas, au contraire, on dit vas-y, fonce. Et à la fin, ça nous fait 2-3 films par an.
C'est ça, pour l'instant, en gros, on n'a jamais eu le souci de se dire. Il faut choisir entre tel film et tel film. Donc là, on a le plaisir de, dès que quelqu'un vient en disant, quand un des membres dit, là, ça y est, j'ai un projet, etc., on se dit, on va voir comment on peut t'aider pour le réaliser, qu'est-ce qu'on peut faire.
Finalement, c'est plus l'engagement du porteur de projet qui est important.
Clairement, oui.
Quitte à l'aider à améliorer son projet collectivement.
C'est ça. Notre but aussi, effectivement, c'est ça, c'est de faire des films qui sont beaux.
Est-ce que votre collectif a souffert de la période de confinement ?
Il y a eu un creux, ouais. On va pas se mentir. Oui, bah oui, forcément.
Combien vous êtes aujourd'hui avait...
Je sais plus, bah, c'était le film de Xavier qui devait se faire plus tôt ou pas.
Alors,
je sais plus.
De Xavier.
Xavier Labarre, qui est un des membres de l'association, du coup, qui là va commencer le tournage de son film cet été.
Mm-hmm. On est une vingtaine. Pour répondre okay. à la question.
Oui, tout à fait. Et du coup, bah, oui, ça a créé un creux. Donc, on a fait des réunions, on a fait 2-3 réunions par, en visio. Mais forcément, c'est pas vraiment la même chose. Surtout quand on fait des films, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais en fait, bah, l'avantage, c'est que bah, vu qu'on ne pouvait pas filmer, bah, on s'est à peu près tous mis à écrire, je crois. Et donc, on avait, bah, on avait pas mal de scénarios à la sortie du confinement. Et puis, on s'était amusé aussi à faire une petite vidéo... chacun de notre côté, alors c'était un projet que j'avais essayé de faire, où vu qu'on était tous séparés, bah, chacun se filmait pour faire un personnage, et on essayait de faire rentrer ça un peu comme on pouvait, en fait, avec des chants contre chants un peu bizarres, et ce qui donne une parodie de soap opéra qui personnellement me fait rire, mais après, parce que c'est moi qui l'ai écrit, alors forcément...
Oh, j'ai rigolé aussi, donc c'est, oui.
C'est ouais. bon. C'est bon.
Et alors, est-ce que du coup, du fait que vous êtes très collectif, se détache quand même un type de film, un genre, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui, une signature commune finalement, qui émerge?
Bah, là-dessus, alors j'ai envie de dire pas vraiment, parce que chaque porteur de projet a sa propre vision, a sa propre patte de réalisateur. Par exemple, Johan ici présent fait beaucoup de films de comédie un peu absurdes.
C'est ça.
Il y a Vincent Malizé dont on parlait tout à l'heure, c'est plutôt des films un peu des polars ou des films noirs, on va dire. Il y a Jolyon Derfeuille par exemple qui fait plutôt des films très poétiques. Et donc voilà, et donc il y a Jérémy et Stéphanie Lebeau aussi où c'est des films très humanistes. Et donc en fait chacun a sa petite patte et apporte sa patte. Et donc en fait non, il n'y a pas tellement de patte court et 49. C'est plutôt le côté un peu, c'est le côté un peu famille, quoi. C'est-à-dire qu'on s'entraide et ça peut faire peur un peu quand on rentre dans l'association parce qu'on dit oh, c'est déjà un groupe déjà établi. Mais une fois qu'on s'adapte et qu'on prend le temps de se dire bah, voilà, c'est un groupe déjà établi, donc je rentre dedans et j'accepte ce qui existe déjà. En fait, à partir de ce moment-là, on intègre toutes les personnes et donc là-dessus, il n'y a pas de particulier à quoi 49. C'est plus le côté famille, on va dire, sur les réalisations, sur les productions.
Et alors, est-ce que vos films qui sont dans cette veine de la passion et de l'amateurisme se font sans argent?
Non, on a besoin d'argent.
Alors, comment vous faites
de l'argent.
Comment faites-vous pour trouver l'argent dont vous avez
c'est
besoin?
C'est compliqué. Quand on a commencé, on avait donc zéro. Et maintenant, on a plus. Notamment grâce à des prestations qu'on faisait pour des associations.
Par exemple,
on a proposé nos services. Par exemple, on a fait pour de la boxe, pour de l'athlétisme aussi, pour
faire des films par rapport à des événements
films,
qui ont lieu.
Des prestations, soit couvrir un événement, soit faire une petite vidéo justement pour promouvoir l'événement en amont. On avait fait du coup pour les trails de d'Angéterre d'athlétisme, donc pour ce qui vient de se passer tout Angers bouge.
Oui.
Il y a deux ans maintenant. 3 ans, oh, avec le Covid, j'ai tout oublié. Sinon, on avait également le CCAS qui nous aidait beaucoup puisqu'ils avaient une action qui était le prix de l'innovation sociale où ils récompensaient des associations pour leur travail solidaire, etc. Et du coup, nous, on était chargés de faire des vidéos sur ces associations-là. Mmh. Et donc, c'était parfait pour nous parce qu'on était en équipe de deux. Il y avait 7 associations, quelque chose comme ça, 6 ou 7 associations à filmer. Et donc, chaque membre, en fait, faisait sa part de ce contrat qu'on faisait avec le CCAS. Et donc, on recevait à ce moment-là des fonds. Mmh. Et ça nous a permis d'avoir justement de l'argent à mettre dans les films. Après, malheureusement, on peut pas soutenir les films à 100%. Mmh. Et donc là, c'est le réalisateur qui doit mettre... aussi la main à la pâte, donc soit personnellement, soit en faisant des financements participatifs, soit en disant non et en mettant tout en bénévole, etc. Mais ça devient plus compliqué.
Voilà. Mais en moyenne, oui, on arrive plus vers les 2 000-3 000 euros.
De budget pour vos films.
Par projet, facile.
Ouais.
D'accord.
Mais ça reste très limité.
Pour un 20 minutes. Ouais. Après, sur du 5 minutes ou des trucs qui vont se tourner sur un week-end, on est sur du plus léger.
Oui, c'est ça. Mais après, il y a beaucoup d'humains, enfin, il y a beaucoup de bénévolat, donc c'est vrai que souvent on ne valorise pas le bénévolat, mais si on valorisait, si on disait voilà, le temps passé par personne, en fait, on arriverait à des budgets qui seraient beaucoup plus élevés.
On a la chance d'avoir un milieu angevin très sympathique aussi à ce niveau-là, des gens qui viennent nous aider, que ce soit en post-production ou alors même sur le tournage.
Ouais, notamment la poste que vous avez reçue il y a deux semaines.
Ouais. Qui nous a reçu deux fois même.
Exactement. Bah, j'ai écouté les deux.
On commence à bien les connaître.
et ils nous ont aidés sur quelques courts-métrages, justement, sur nos films. Quoi.
Je pense que ça n'étonnera pas les auditeurs, vu comment ils ont été généreux dans la rencontre. pour revenir du coup sur votre fonctionnement associatif, ce que je trouve très riche aussi, c'est comment une association induit de la transmission des savoirs, de la formation. Comment ça se passe chez vous ?
Et bah, dès le départ, je ne sais plus, mais on a très vite voulu justement que tout le monde apprenne. Et donc, on s'est très vite mis à faire des petits ateliers, en fait. Et donc, au début, on se fait une petite réunion pour se dire, bon, alors, quels ateliers on va faire ? On va faire des ateliers pour d'écriture, avec des exercices, choses comme ça, mais aussi, ah bah tiens, pour apprendre à monter, ça serait sympa d'avoir un petit atelier. Moi-même étant réalisateur, du coup, j'ai fait des ateliers sur le montage, aussi sur les effets spéciaux. On a fait des ateliers sur l'étalonnage, sur la lumière, justement, des choses comme ça. Donc, c'est organisé soit par les membres qui ont les compétences pour les autres membres, soit, parfois, on fait aussi appel à des professionnels de l'extérieur pour nous faire, justement, des présentations. On a eu, par exemple, des masterclass, pour les appeler comme ça, sur la note d'intention. On a eu des rencontres avec des réalisateurs qu'on a organisées, qui étaient ouvertes aux membres, mais aussi, du coup, à l'extérieur, parce que quand on a des professionnels, autant en faire profiter un maximum. Et donc, l'idée, toujours, c'est ça, c'est de transmettre entre nous, mais aussi vers l'extérieur.
Bien sûr. Et donc, la principale activité de l'asso, c'est de faire des films collectivement. Mmh. Mais je crois que vous avez aussi d'autres activités, comme ce qui s'est passé ce week-end.
Oui.
Alors, c'est-à-dire, c'est aussi faire des films, mais
je
d'une autre manière.
Je considère ça comme un atelier, un peu, finalement. Ouais. Parce qu'on l'a tous un peu pris comme ça, comme un exercice. Ce week-end, on a fait, du coup, donc on l'a appelé le cours et 49 heures. Et donc, on avait 49 heures pour réaliser, monter un film, ce qui fait court. Et oui. Et donc, on s'est lancé le défi parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui existent dans ce style-là, mais pas forcément sur Angers. Et donc, nous, on voulait voir un peu ce que ça donne, aussi s'entraîner déjà sur ce genre de défi. Et puis, pourquoi pas, après, en réorganiser d'autres en accueillant des équipes de tournage qui viennent de l'extérieur, etc. Parce que là, du coup, on était deux équipes avec des membres de l'association. On avait fait appel à des acteurs qui étaient déjà prêts, etc. Le vendredi, on s'est tous réunis à 19h.
Oui, c'est ça.
Et on a tiré un thème au hasard. Et à partir de là, il fallait tourner le film. Enfin, l'écrire déjà, ce qui a pris pas mal de temps.
Mission réussie.
Ouais.
Ouais, ouais.
Beaucoup de stress, peu d'heures de sommeil.
Ça allait.
Pas vraiment, non. Parce que comme je pense qu'il n'y avait pas de réelle compétition, en fait, on l'a plutôt bien vécu et on a réalisé nos films, on se sentait bien. Quoi. Et on ne s'est pas couché à 3h.
Le samedi soir, on était aussi le vendredi.
Ah, c'est toi, si.
Nous, on a eu un peu de mal à l'écriture, ça a mis pas mal de temps. mais du coup, après, sur le tournage, oui, après, ça dépendait vraiment de... Enfin, ça dépend de tellement de choses. Sur le tournage, est-ce qu'on va avoir plusieurs lieux? Est-ce qu'on va avoir des problèmes de météo? Ce qu'on a failli avoir, d'ailleurs, avec la pluie qu'il y a eu ce week-end. Mm-hmm. Enfin, y a toutes ces choses-là, en fait, qui vont beaucoup changer le temps qu'on va mettre. Mais après, là, non, ça va. C'était pas trop la course, même si on a fini à l'heure quand même. Quoi, hein, c'était fallait pas moins.
Non.
Alors que ce soit cette drôle d'aventure de week-end ou l'ensemble de vos films, dans tous les cas, se pose la question de la diffusion et de la valorisation de vos travaux.
Vaste question.
Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des festivals spéciaux amateurs ? Est-ce que vos films, finalement, valent ceux des professionnels et ils concourent dans des festivals pro ? Enfin, comment ça se passe ?
Ça dépend. En gros, c'est toujours la grande question, justement, sur la diffusion. C'est comment on va le diffuser et quel est le but du réalisateur ? Parce que là, c'est vraiment, justement, ça va être le réalisateur qui va décider de comment il veut le présenter. Il y en a... Souvent, ce qu'on veut faire, c'est quand même, de toute façon, le présenter aux 400 coups. Enfin, le voir vraiment au cinéma au moins une fois, ne serait-ce que pour remercier toutes les personnes qui participent, tout simplement, d'avoir une salle pour vraiment se voir tous et voir ces films. Derrière, après, la vie en festival, donc il y a énormément de festivals qui existent, de courts-métrages, mais c'est très varié, il y a beaucoup de choses avec des fois des contraintes où il faut que ça dure entre 7 minutes 3 et 2 minutes 4. Bref, il y a beaucoup de choses, il y en a certains qui sont payants, etc. Et surtout, il n'y a pas forcément de banque de données simples pour les trouver. Du coup, c'est vraiment un gros travail de présenter ses films en festival. C'est pas toi qui veux me dire le contraire.
Bah, il y a maintenant aujourd'hui ça a tendance à s'associer. Il y a 3-4 sites internet qui relèvent justement les festivals en France. Mais chaque inscription coûte de l'argent. On achète des, alors ils appellent ça des tickets. Et donc quand on envoie un court métrage, on peut en envoyer à une trentaine en France, 30-40 festivals, sans avoir à payer un prix en plus que ces tickets-là, qui sont 5 tickets pour 5 euros en gros, c'est un peu ça. Et donc on essaye de pousser les membres à envoyer quand même leur film en festival, parce que comme on a beaucoup de bénévoles, bah, par exemple les comédiens qui viennent jouer dans nos films, eux ils ont aussi envie que leur film soit diffusé, qu'on puisse les remarquer, que d'autres réalisateurs puissent les remarquer, etc. Donc de pouvoir le diffuser le plus possible, c'est quand même important. Et donc c'est ce qu'on essaye de pousser les réalisateurs à le faire, et au moins à le faire sur un de leurs films, c'est vraiment d'essayer de vraiment envoyer dans des festivals pour juste avoir à apprendre ce que c'est d'envoyer dans des festivals et voir comment ça peut se passer.
C'est un des postes finalement du milieu du cinéma, qui est tout ce travail de diffusion là, c'est un poste à part entière qu'on apprend aussi quoi.
Tout cas, je souhaite à tous les festivals d'avoir le plaisir de vous accueillir et d'accueillir vos films. C'est tellement agréable de vous entendre.
Merci
beaucoup d'être venu, Johan, Benoît, nous présenter Courrier 49. Et on retrouve toutes les actualités et vos productions sur votre site qui est
courrier49.fr. Et la page Facebook et la page Instagram. Et on a des tournages qui vont arriver, donc on va sûrement mettre des photos de tout ça.
Ouais. On espère. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Titre issu de la bande originale de Pulp Fiction. Let's Stay Together de Al Green. Vous avez certainement reconnu, on a été pioché dans les classiques pour le plaisir de retrouver Margot dans Caméra Subjective. Et maintenant, on va avoir quelques dates, un agenda des conseils que tu as choisi, Margot.
Absolument. Alors, c'est un agenda, un carnet de notes, un peu comme on veut. En tout cas, je vous propose d'effectuer une sorte de mouvement latéral de la tête. Alors, on se concentre. En fait, on va commencer par regarder en arrière avec une étude du CNC qui a été publiée la semaine dernière et qui surtout portait sur la fréquentation des salles l'an dernier. Et ensuite, on va délicatement repositionner sa tête pour regarder droit devant nous avec plusieurs événements et sorties qui ont lieu en ce moment et qui vont durer quelques jours. Alors, c'est parti, on y va. On commence donc par cette étude CNC sur la fréquentation des salles. Et elle a été publiée par le Centre National du Cinéma en double dose le 23 mai, à l'occasion du Festival de Cannes. Et évidemment, ce n'est pas un hasard. Et pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie du cinéma, c'est vraiment des études qui sont très bien faites, qui sont passionnantes et qui surtout sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site du CNC. Alors la première étude, c'est l'habituel bilan de la fréquentation cinématographique, donc qui portait sur l'année 2021. Et qui est une façon extrêmement éclairante d'aborder en chiffres l'impact de la crise sanitaire sur la filière complète du cinéma, à la fois donc sur l'exploitation bien sûr, mais aussi sur la distribution et la production des films. Avec un premier chiffre qui est assez frappant, qui est 95,5 millions. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre à votre avis ?
Des personnes ?
Voilà, ce sont les entrées salles en 2021 et qui est à comparer... Restez bien assis, avec celui de 2019 qui était de 213 millions. Donc autant vous dire que rien qu'avec ces deux chiffres, on a vraiment l'ampleur de la crise qui a plus que divisé par deux la fréquentation cinématographique. Et donc déjà l'idée que l'exploitation est à la peine, quand bien même évidemment elle est soutenue comme d'autres secteurs économiques. Et c'est surtout l'exploitation en multiplex plus qu'en cinéma indépendant art et essai qui est touchée. Alors un deuxième chiffre à mettre presque en parallèle, c'est le chiffre de 455. Et là, c'est le nombre de films inédits sortis en 2021. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2021, il y a eu à peu près 3 mois de fermeture des salles. Donc, c'est vraiment à mettre en rapport ce nombre de films avec le nombre de semaines d'exploitation disponibles. Et ça fait vraiment une concentration et un encombrement des sorties en salle extrêmement flagrant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que plus de la moitié de ces films, donc plus de la moitié des 455 films, sont des films français, ce qui illustre ce qui est en train de se passer chez les distributeurs qui ont dû s'engager très tôt sur le préachat de films en production et qui se sont retrouvés avec des stocks de films français qu'ils étaient obligés de sortir en salle et qu'ils ne pouvaient pas sortir ou alors qu'ils devaient tous sortir. Donc on a un peu quand même l'image... un gros gâchis et peut-être l'image aussi en tant que spectateur de ne pas avoir eu le temps de voir des films qui pouvaient nous intriguer, mais effectivement il y en avait tellement qu'il fallait tout de suite passer à autre chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce que note le CNC, c'est que sur les 455 films inédits qui sont sortis en 2021, il y en a 23, 10 films français et 13 films américains qui ont dépassé le million d'entrées. Et plus généralement, en fait, ils ont calculé que 45% des entrées salles, donc 45% de 95,5 millions, ont été réalisées par les 20 premiers films. Et là aussi, c'est assez vertigineux parce que ça dit bien le tout petit pactole qu'ont dû se partager 435 films, en fait. Ce qui montre à nouveau la fragilité de la filière qui va à la fois être pour la distribution et pour la production. Par ailleurs, cette baisse brutale de la fréquentation, elle fait craindre en fait à toute la filière du cinéma un changement durable des habitudes des cinéphiles. Parce que, et c'est là la dernière partie de l'étude du CNC qui est intéressante et qui s'intéresse à un petit peu aux raisons en fait de cette baisse de la fréquentation. La première évidente, c'est la fermeture des salles, puisque comme je le disais, il y a eu à peu près 3 mois. De fermeture des salles en 2021, qui était quand même à rajouter à tous ceux de 2020. Au total, on est à 300 jours de fermeture des salles entre 2020 et 2021. C'est quasiment une année complète. Plus l'instauration du pass sanitaire début juillet, puis du pass vaccinal, le port du masque, etc. Donc tout ça, assurément, ça a pu faire fuir un certain nombre de spectateurs et ça s'est vu très concrètement pour un certain nombre de sorties comme La Palme d'Or, Titan, qui est sortie juste avant l'instauration du pass sanitaire et qui a vu ses entrées... fondre à cause de ça. Ensuite, le CNC note que les personnes âgées, qui sont habituellement le cœur de cible des habitués, des cinéphiles récurrents, ne sont pas encore entièrement revenus dans les salles. Et enfin, évidemment, la pandémie a accéléré l'essor de la VOD qui était déjà installée, mais on a des chiffres assez incroyables qui sont rapportés dans cette étude, avec une augmentation de 12% de la VOD en un an, qui a principalement bénéficié à la VOD par abonnement, c'est-à-dire tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, Disney+, et c'est-à-dire des séries plus que des films. Donc là, on sent qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment faire pour éventuellement ramener les cinéphiles en salle. Et cette fébrilité en fait de tous les acteurs de la filière cinéma s'est réellement exprimée pendant le Festival de Cannes, qui était quand même une grande célébration de toutes les œuvres récemment produites. Donc j'avais parlé de deux études. Donc on a eu la première qui était les chiffres de fréquentation. Et il y a une deuxième étude dont le titre est, bon, m'amuse assez, mais qui en même temps est très vrai. C'est « Pourquoi les Français vont-ils moins souvent au cinéma ?» Et là, le CNC regarde en face les choses, interroge à peu près 1500 personnes pour essayer d'expliquer pourquoi la fréquentation des salles n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Et parmi les principaux freins évoqués, il y a d'une part la perte d'habitude, ça c'est surtout pour les personnes âgées qui effectivement ne se sentent plus peut-être de sortir de chez elles, et en corollaire, et ça touche surtout les jeunes, une habitude de regarder des films sur d'autres supports. Donc l'un et l'autre, ce que craignent en fait les professionnels, c'est une sorte de décorrélation entre le cinéma et la salle, c'est-à-dire l'idée que les films, leur lieu peut-être pour les voir, ne serait plus automatiquement, naturellement la salle, mais d'autres types d'écrans. Alors là, c'est vraiment une question en suspens. Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que c'est la continuité normale? Chacun a sa réponse. Parmi les autres freins, il y a aussi le prix du billet qui paraît un petit peu trop cher, le port du masque, et surtout, et ça c'est le dernier point mis en avant par le CNC, et je pense que pour faire partie d'un certain nombre de commissions du CNC, je pense que c'est intéressant de le garder en tête, c'est que dorénavant, un certain nombre de spectateurs expliquent qu'en fait, il n'y a pas de films qui les intéressent. Soit il y a eu des films qu'ils attendaient qui ont été déprogrammés, soit surtout le public plébiscite des types de films, notamment des comédies ou des films de genre, qui sont actuellement pas tant produits que ça en France. Et là, ça, je pense qu'effectivement, il faudrait... je ne suis pas la seule à imaginer qu'il faudrait peut-être s'interroger sur... interroger les auteurs aussi sur quels sont les scénarios qu'ils ont envie d'écrire et qui surtout vont réussir à réunir le public. Alors, une petite note d'espoir néanmoins pour finir dans cette étude, c'est que le public qui est revenu et qui déclare aller autant, voire plus au cinéma, ce sont les enfants, les jeunes, les étudiants et les familles, c'est-à-dire, on peut l'espérer, une nouvelle génération de cinéphiles. Alors, je termine ce compte-rendu de cette étude, qui encore une fois est disponible sur le site de CNC, en appuyant sur une des pistes proposées par le Centre national du cinéma pour renouer avec la fréquentation, c'est que les salles réorganisent des événements pour favoriser l'intérêt du public. Et c'est ce dont on va justement parler maintenant. Avec ce soir, dépêchez-vous, dès la fin de l'émission, courez aux 400 coups, parce qu'à partir de 20h, il y a la nuit en or du court-métrage qui est organisée sous l'égide de l'Académie des Césars. Et c'est une séance qui propose 7 courts-métrages, j'ai envie de dire de qualité naturellement, qui ont été primés soit aux Césars, soit aux Oscars, soit au Goya, soit au Magritte. Et c'est une sorte de mélange de films à la fois d'animation, de documentaire, de fiction, des films drôles, engagés, touchants, surprenants. En tout cas, l'affiche est alléchante. Courez-y si vous pouvez. Autre événement important cette semaine, c'est la ressortie en salle d'un film longtemps invisible sur grand écran, qui est un film vraiment culte pour toute une génération de cinéphiles, qui est « La maman et la putain » de Jean Eustache, qui a été tourné en 1972, sorti en 1973, qui avait fait scandale à l'époque. Alors, je n'ai pas vraiment le temps de vous le résumer, de vous en parler très longuement, parce qu'on me fait signe dans mon oreillette que nous sommes très en retard. Alors, je dis juste Jean-Pierre Léo, Le quartier latin... Mai 68, la liberté sexuelle, le noir et blanc, une durée de dingue, 3h40 quand même. Et la séance, le film est projeté à 19h50 tous les soirs aux 400 coups. Franchement, courez-y. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette occasion.
Ouais.
Annie me dit qu'on a plus de temps que prévu.
Oh no, oui, tu peux mentionner ton dernier sujet, si tu veux.
Je peux mentionner mon dernier sujet, on y va.
Taillons dans le vif.
Donc là, c'est le sujet où on se projette en avant, puisque j'avais envie de vous parler d'un festival qui a commencé hier et qui se déroule toute la semaine, en tout cas jusqu'au 14 juin, à Saint-Nazaire. C'est le festival Zone Portuaire qui est organisé par l'association Cales Obscures et dont ce sera la 7e édition cette année. La thématique de ce festival est assez originale puisqu'il s'agit de revenir grâce au cinéma, de présenter grâce au cinéma des villes portuaires et des territoires maritimes dans le monde. Donc au cœur de la programmation, l'envie de mettre en lumière les spécificités de ces villes qui sont singulières, universelles, leurs richesses, leurs évolutions sociologiques, urbaines ou économiques. Et cette année, la ville à l'honneur, c'est Dakar au Sénégal, avec la programmation d'une dizaine de films réalisés sur place, des documentaires, de la fiction ou même des films dits de patrimoine. On va retrouver notamment les œuvres de la réalisatrice Mati Diop, qu'on adore ici, Atlantique par exemple, ou des cinéastes Alain Gomis ou Djibril Diop Membeti. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans la présentation de cette rétrospective, c'est ce que soulignaient les programmateurs du festival qui disaient « Le voyage est une des thématiques les plus importantes dans le cinéma dakarois. Il raconte les migrations, les rêves, les angoisses, les échanges du Sénégal post-indépendance. » Donc j'ai envie de dire rien que pour ça, filez à Saint-Nazaire pour assister, participer à ce festival.
En plus, il paraît que c'est très beau, Saint-Nazaire. Margot, tu n'as pas chômé car tu as également préparé une chronique, une critique sur un film documentaire dont on va écouter la bande-annonce. Il s'agit de Birds of America.
Aux sources du fleuve, commence un voyage dans le temps sur les traces de tes oiseaux disparus.
Audubon was an early environmentalist, and so much of what he worried about came true.
Tu prédisais, il n'y aura plus aucun poisson. Les magnolias disparaîtront des forêts de Louisiane. Des millions d'oiseaux seront exterminés.
Alors, on parlait de voyage avec le festival Zone Portuaire, et c'est aussi à un émouvant périple que nous embarque le documentaire dont j'ai choisi de vous parler ce soir. Il s'agit du film Birds of America, du réalisateur français Jacques Leuil, et ça, ça ne s'invente pas, qui est sorti en salle la semaine dernière et que je vous propose de découvrir cette semaine au 400 coups à Angers. Alors, avant d'être le titre d'un film, Birds of America était celui d'un très gros ouvrage illustré publié au milieu du 19e siècle en Amérique. Il regroupait toutes les planches peintes par l'explorateur Jean-Jacques Audubon ou John James Audubon de l'autre côté de l'Atlantique. Une œuvre colossale et magnifique, 435 planches au total, pour figurer entre 500 et 600 espèces d'oiseaux différentes observées par l'artiste lors de ses expéditions et aussitôt représentées sur papier. Comme on parle des grandioses tapisseries d'Aubusson, on devrait célébrer les subtiles peintures d'Audubon. Avec habileté, le réalisateur mêle dans son documentaire géographie d'un territoire, réflexion écologique, sociologique et économique, histoire des hommes et histoire de l'art. Le film se présente comme un périple sur les traces du peintre naturaliste, né en France en 1785 et mort outre-Atlantique en 1851. Audubon débarque aux États-Unis avant ses 20 ans, au tout début du 19e siècle, avec la ferme intention d'explorer ce nouveau monde et ses territoires vierges. Or, comme le souligne le commentaire du film,
le nouveau monde est celui des oiseaux.
À cette époque, le continent nord-américain est majoritairement sauvage, la conquête de l'Ouest n'a pas encore eu lieu, et le fleuve Mississippi constitue la frontière physique entre l'Est, habité et civilisé, et l'Ouest sur l'autre rive, vaste jungle peuplée d'animaux sauvages et de nombreux oiseaux, justement. Et ce sont eux qui intéressent l'artiste, qui se lance dans une quête à l'ampleur démesurée. Découvrir, observer et documenter la diversité étonnante de ces volatiles. Comme le Mississippi s'avère un couloir migratoire naturel pour la plupart des oiseaux d'Amérique, Audubon multipliera les voyages du nord au sud de ce fleuve. À sa suite, le documentaire de Jacques Leuil parcourt ce même chemin et documente les paysages, dorénavant urbains et industriels, dans des plans aussi magnifiques que désolants. Et aux reproductions des planches d'Audubon que nous donne à voir le film, répondent des plans de la nature maltraités depuis deux siècles par l'homme. Pollution de l'air, érosion des sols causée par les forages pétroliers ou disparition des prairies pour laisser la place aux plantations de coton puis aux usines. L'une des forces de ce documentaire est ainsi de tisser des liens entre passé et présent, entre la découverte d'une œuvre, celle d'Audubon, et l'extinction d'un peuple, celui des oiseaux en Amérique, avec la destruction de leur habitat naturel. Et si le film s'attache à rendre hommage à la beauté et au caractère novateur de ses peintures, qui sont saisissantes de vie, de gaieté, de couleur, de détails et d'expressivité, il met aussi en lumière le paradoxe au cœur de leur réception. Parce que, alors qu'Audubon peignait le maximum d'espèces, conscient de la menace que faisait planer l'homme sur la nature, ses contemporains y voyaient plutôt l'illustration de la générosité d'un dieu prodigue, qui leur confiait une terre si riche pour l'exploiter. Les peintures d'Audubon, qui étaient pour lui une manière de dresser une archive du ciel avant l'ère industrielle, ont surtout été célébrées comme l'évocation de la nature sauvage, les images parfaites de la wilderness mythique pour les Américains, quitte à ce qu'elle appartienne au passé. Ainsi, comme le note un des intervenants du documentaire, certains oiseaux peints par Audubon ont depuis disparu et on ne les connaît dorénavant que par ses dessins. C'est d'ailleurs le cas des très belles perruches de Caroline, dont la planche est reproduite sur l'affiche du film et qui ne sont plus présentes en Amérique. Pour finir, le film va plus loin, en faisant un parallèle entre l'œuvre d'Audubon et celle de George Catlin, son contemporain, qui lui a peint toutes les tribus indiennes avant qu'elles ne soient dispersées et déportées dans les réserves. Donc vous l'aurez compris, ce film est aussi beau que poignant et intelligent, et il est à découvrir sur grand écran depuis la semaine dernière. Courez-y.
Birds of America, un documentaire de Jacques L'Œil, et on peut le découvrir aux 400 coups tous les jours à 13h15. Merci Margot pour ce bon conseil. C'est la fin de cette émission et on n'est pas si en retard que ça. Franchement, je suis presque déçue. Il est 19h41, je suis désolée, nous sommes désolés de rendre l'antenne un petit peu en retard. Merci de nous avoir écoutés, l'émission est disponible en intégralité sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de Caméra Subjective. Et vous y trouverez les liens vers tout ce dont on a parlé ce soir, le site de nos invités, Courrier 49, les séances, le programme du festival à Saint-Nazaire, etc., etc. Merci encore et on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de cette saison. Et oui.
Pression.
Pression. Au revoir. Bonne soirée.
Au revoir. À très vite.